« Mon Dieu, je perdrais bien 100 francs, dit César, pour qu'il nous vînt une visite. « Voilà monsieur l'abbé Loro, dit Virginie. » L'abbé Loro se montra. Ce prêtre était alors vicaire de Saint-Sulpice. Jamais la puissance de l'âme ne se révéla mieux qu'en ce saint prêtre, dont le commerce laissa de profondes empreintes dans la mémoire de tous ceux qui le connurent. Son visage rechigné, laid jusqu'à repousser la confiance, avait été rendu sublime par l'exercice des vertus catholiques. Il y brillait par avance une splendeur céleste. Une candeur infusée dans le sang reliait ses traits disgracieux, et le feu de la charité purifiait les lignes incorrectes par un phénomène contraire à celui qui, chez Claparon, avait tout animalisé, dégradé. Dans ses rides se jouaient les grâces des trois belles vertus humaines, l'espérance, la foi et la charité. Sa parole était douce, lente et pénétrante. Son costume était celui des prêtres de Paris. Il se permettait la redingote d'un brun marron. Aucune ambition ne s'était glissée en ce cœur pur que les anges durent apporter à Dieu dans sa primitive innocence. Il fallut la douce violence de la fille de Louis XVI pour faire accepter une cure de Paris, encore une des plus modestes, à l'abbé Loro. Il regarda d'un œil inquiet toutes ces magnificences, sourit à ses trois commerçants enchantés et hocha sa tête blanchie. « Mes enfants, leur dit-il, mon rôle n'est pas d'assister à des fêtes, mais de consoler les affligés. Je viens remercier monsieur César, vous féliciter. Je ne veux venir ici que pour une seule fête, pour le mariage de cette belle enfant. » Après un quart d'heure, l'abbé se retira sans que le parfumeur ni sa femme osassent lui montrer les appartements. Cette apparition grave jeta quelques gouttes froides dans la joie bouillante de César. Chacun se coucha dans son luxe en prenant possession des bons jolis petits meubles qu'ils avaient souhaités. Césarine déshabilla sa mère devant une toilette à glace en marbre blanc. César s'était donné quelques superfluités dont il voulut user aussitôt. Tous s'endormirent en se représentant par avance les joies du lendemain. Après être allés à la messe et avoir lu leur vêpres, Césarine et sa mère s'habillèrent sur les 4 heures, après avoir livré l'entresol aux bras séculiers des gens de chevet. Jamais toilette n'alla mieux à Madame César que cette robe de velours cerise garnie en dentelle, à manches courtes ornées de jockeys. Ses beaux bras, encore frais et jeunes, sa poitrine étincelante de blancheur, son col, ses épaules d'un si joli dessin, étaient rehaussées par cette riche étoffe et par cette magnifique couleur. Le naïf contentement que toute femme éprouve à se voir dans toute sa puissance donna je ne sais quelle suavité au profil grec de la parfumeuse, dont la beauté parut dans toute sa finesse de camée. Césarine, habillée en crêpe blanc, avait une couronne de rose blanche sur la tête, une rose à son côté. Une écharpe lui couvrait chastement les épaules et le corsage. Elle rendit Popinot fou. « Ces gens-là nous écrasent, » dit Madame Roguin à son mari en parcourant l'appartement. La notaresse était furieuse de ne pas être aussi belle que Madame César, car toute femme sait toujours en elle-même à quoi s'en tenir sur la supériorité ou l'infériorité d'une rivale. « Bah, ça ne durera pas longtemps, et bientôt tu éclabousseras la pauvre femme en la rencontrant à pied dans les rues, et ruinée !» dit Roguin bas à sa femme. Vauquelin fut d'une grâce parfaite. Il vint avec monsieur de la Cépède, son collègue de l'Institut, qu'il était allé prendre en voiture. En voyant la resplendissante parfumeuse, les deux savants tombèrent dans le compliment scientifique. « Vous avez, madame, un secret que la science ignore pour rester ainsi jeune et belle, » dit le chimiste. « Vous êtes ici un peu chez vous, monsieur l'académicien, » dit Birotteau. « Oui, monsieur le comte, » reprit-il en se tournant vers le grand chancelier de la Légion d'honneur. « Je dois ma fortune à monsieur Vauquelin. J'ai l'honneur de présenter à votre seigneurie monsieur le président du tribunal de commerce. C'est monsieur le comte de la Cépède, pair de France, un des grands hommes de la France. » « Il a écrit 40 volumes, dit-il à Joseph Lebas, qui accompagnait le président du tribunal. » Les convives furent exacts. Le dîner fut ce que sont les dîners de commerçants, extrêmement gai, plein de bonhomie, historié par de grosses plaisanteries qui font toujours rire. L'excellence des mets, la bonté des vins furent bien appréciées. Quand la société rentra dans les salons pour prendre le café, il était 9h30. Quelques fiacres avaient amené d'impatientes danseuses. Une heure après, le salon fut plein et le bal prit un air de raout. M. de la Cépède et M. Vauquelin s'en allèrent, au grand désespoir de Birotteau, qui les suivit jusque sur l'escalier en les suppliant de rester, mais en vain. Il réussit à maintenir M. Popinot le juge et M. de la Billardière, à l'exception de trois femmes qui représentaient l'aristocratie, la finance et l'administration, Mademoiselle de Fontaine, Madame Jules, Madame Rabourdin, et dont l'éclatante beauté, la mise et les manières tranchaient au milieu de cette réunion, les autres femmes offraient à l'œil des toilettes lourdes, solides, ce je ne sais quoi de cossu qui donne aux masses bourgeoises un aspect commun, que la légèreté et la grâce de ces trois femmes faisaient cruellement ressortir. La bourgeoisie de la rue Saint-Denis s'étalait majestueusement en se montrant dans toute la plénitude de ses droits de spirituelle sottise. C'était bien cette bourgeoisie qui habille ses enfants en lanciers ou en garde nationale, qui achète victoires et conquêtes, le soldat laboureur, admire le convoi du pauvre, se réjouit le jour de garde, va le dimanche dans une maison de campagne à soi, s'inquiète d'avoir l'air distingué, rêve aux honneurs municipaux. Cette bourgeoisie jalouse de tout est néanmoins bonne, serviable, dévouée, sensible, compatissante, souscrivant pour les enfants du général Foy, pour les Grecs dont elle ignore les pirateries, pour le champ d'asile au moment où il n'existe plus, dupe de ses vertus et bafouée pour ses défauts par une société qui ne la vaut pas, car elle a du cœur précisément parce qu'elle ignore les convenances. Cette vertueuse bourgeoisie qui élève des filles candides, rompues au travail, pleines de qualités, que le contact des classes supérieures diminue aussitôt qu'elle les y lance, ces filles sans esprit parmi lesquelles le bonhomme Chrysale aurait pris sa femme. Enfin, une bourgeoisie admirablement représentée par les Matifat, les droguistes de la rue des Lombards, dont la maison fournissait la Reine des Roses depuis 60 ans. Madame Matifat, qui avait voulu se donner un air digne, dansait coiffée d'un turban et vêtue d'une lourde robe ponceau lamée d'or, toilette en harmonie avec un air fier, un nez romain et les splendeurs d'un teint cramoisi. Monsieur Matifat, si superbe à une revue de garde nationale, où l'on apercevait à 50 pas son ventre rondelet sur lequel brillait sa chaîne et son paquet de breloques, était dominé par cette Catherine II de comptoir. Gros et court, harnaché de besicles, maintenant le col de sa chemise à la hauteur du cervelet, il se faisait remarquer par sa voix de basse-taille et par la richesse de son vocabulaire. Jamais il ne disait « Corneille », mais « le sublime Corneille ». Racine était le doux Racine. Voltaire, oh Voltaire, le second dans tous les genres, plus d'esprit que de génie, mais néanmoins homme de génie. Rousseau, esprit ombrageux, homme doué d'orgueil et qui a fini par se pendre. Il comptait lourdement les anecdotes vulgaires sur Piron, qui passe pour un homme prodigieux dans la bourgeoisie. Matifat, passionné pour les acteurs, avait une légère tendance à l'obscénité. Parfois, Madame Matifat, en le voyant prêt à compter, lui disait « Mon gros, fais attention à ce que tu vas nous dire ». Elle le nommait familièrement son gros. Cette volumineuse reine des drogues fit perdre à Mademoiselle de Fontaine sa contenance aristocratique. L'orgueilleuse fille ne put s'empêcher de sourire en lui entendant dire à Matifat « Ne te jette pas sur les glaces, mon gros, c'est mauvais genre ». Il est plus difficile d'expliquer la différence qui distingue le grand monde de la bourgeoisie qu'il ne l'est à la bourgeoisie de l'effacer. Ces femmes, gênées dans leur toilette, se savaient endimanchées et laissaient voir naïvement une joie qui prouvait que le bal était une rareté dans leur vie occupée. Tandis que les trois femmes, qui exprimaient chacune une sphère du monde, étaient alors comme elles devaient être le lendemain. Elles n'avaient pas l'air de s'être habillées exprès. Elles ne se contemplaient pas dans les merveilles inaccoutumées de leur parure, ne s'inquiétaient pas de leur effet. Tout avait été accompli quand, devant leur glace, elles avaient mis la dernière main à l'œuvre de leur toilette de bal. Leur figure ne révélait rien d'excessif. Elles dansaient avec la grâce et le laisser-aller que des génies inconnus ont donné à quelques statues antiques. Les autres, au contraire, marquées au sceau du travail, gardaient leur pose vulgaire et s'amusaient trop. Leur regard était inconsidérément curieux, leur voix ne conservait point ce léger murmure qui donne aux conversations du bal un piquant inimitable. Elles n'avaient pas surtout le sérieux impertinent qui contient l'épigramme en germe, ni cette tranquille attitude à laquelle se reconnaissent les gens habitués à conserver un grand empire sur eux-mêmes. Aussi, Madame Rabourdin, Madame Jules et Mademoiselle de Fontaine, qui s'étaient promis une joie infinie de ce bal de parfumeurs, se dessinaient-elles sur toute la bourgeoisie par leur grâce molle, par le goût exquis de leur toilette et par leur jeu, comme trois premiers sujets de l'opéra se détachent sur la lourde cavalerie des comparses. Elles étaient observées d'un œil hébété, jaloux. Madame Roguin, Constance et Césarine formaient comme un lien qui rattachait les figures commerciales à ces trois types du grand monde. Comme dans tous les bals, il vint un moment d'animation où les torrents de lumière, la joie, la musique et l'entrain de la danse causèrent une ivresse qui fit disparaître ses nuances dans le crescendo du tutti. Le bal allait devenir bruyant, Mademoiselle de Fontaine voulut se retirer, mais quand elle chercha le bras du vénérable Vendéen, Birotteau, sa femme et sa fille accoururent pour empêcher la désertion de toute l'aristocratie de leur assemblée. Il y a dans cet appartement un parfum de bon goût qui vraiment m'étonne, dit l'impertinente fille au parfumeur, et je vous en fais mon compliment. Birotteau était si bien enivré par les félicitations publiques qu'il ne comprit pas, mais sa femme rougit et ne sut que répondre. Voilà une fête nationale qui vous honore, lui disait le royaliste Monsieur Camusot, le marchand de soieries de la rue des Bourdonnais. J'ai vu rarement un si beau bal, disait Monsieur de la Billardière, à qui un mensonge officieux ne coûtait rien. Birotteau prenait tous les compliments au sérieux. « Quel ravissant coup d'œil ! Et le bon orchestre ! Nous donnerez-vous souvent des bals ?» lui disait Madame Lebas. « Quel charmant appartement ! C'est de votre goût ?» lui disait Madame Desmarets. Birotteau osa mentir en lui laissant croire qu'il en était l'ordonnateur. Césarine, qui devait être invitée pour toutes les contredanses, connut combien il y avait de délicatesse chez Anselme. « Si je n'écoutais que mon désir, lui dit-il à l'oreille en sortant de table, je vous prierais de me faire la faveur d'une contredanse, mais mon bonheur coûterait trop cher à notre mutuel amour-propre. » Césarine, qui trouvait que les hommes marchaient sans grâce quand ils étaient droits sur leurs jambes, voulut ouvrir le bal avec Popinot. Popinot, enhardi par sa tante, qui lui avait dit d'oser, osa parler de son amour à cette charmante fille pendant la contredanse, mais en se servant de détours que prennent les amants timides. « Ma fortune dépend de vous, mademoiselle. »« Et comment ?»« Il n'y a qu'un espoir qui puisse me la faire faire. »« Espérez. »« Savez-vous bien tout ce que vous venez de me dire en un seul mot ?» reprit Popinot. « Espérez la fortune !» dit Césarine avec un sourire malicieux. « Gaudissart ! Gaudissart !» dit après la contredanse Anselme à son ami, en lui pressant le bras avec une force herculéenne. « Réussis ou je me brûle la cervelle. Réussir, c'est épouser Césarine. Elle me l'a dit. Et vois comme elle est belle. »« Oui, elle est joliment ficelée, dit Gaudissart. Et riche. Nous allons la faire frire dans l'huile. » La bonne intelligence de Mademoiselle Lourdois et d'Alexandre Crottat, successeur désigné de Roguin, fut remarquée par Madame Birotteau, qui ne renonça pas sans de vives peines à faire de sa fille la femme d'un notaire de Paris. L'oncle Pillerault, qui avait échangé un salut avec le petit Molineux, alla s'établir dans un fauteuil auprès de la bibliothèque. Il regarda les joueurs, écouta les conversations et vint de temps en temps voir à la porte les corbeilles de fleurs agitées que formaient les têtes des danseuses au moulinet. Sa contenance était celle d'un vrai philosophe. Les hommes étaient affreux, à l'exception de Dutillet, qui avait déjà les manières du monde, du jeune Labillardière, petit fashionable en herbe, de M. Jules Desmarets et des personnages officiels. Mais, parmi toutes les figures plus ou moins comiques auxquelles cette assemblée devait son caractère, il s'en trouvait une particulièrement effacée, comme une pièce de censure républicaine, mais que le vêtement rendait curieuse. On a deviné le tyranneau de la cour batave, paré de linge fin, jauni dans l'armoire, exhibant au regard un jabot à dentelle de succession attaché par un camée bleuâtre en épingle, portant une culotte courte en soie noire qui trahissait les fuseaux sur lesquels il avait la hardiesse de se reposer. César lui montra triomphalement les quatre pièces créées par l'architecte au premier de sa maison. « Hé hé, cette affaire à vous, monsieur, lui dit Molineux. Mon premier ainsi garni vaudra plus de 1000 écus. » Birotteau répondit par une plaisanterie, mais il fut atteint comme d'un coup d'épingle par l'accent avec lequel le petit vieillard avait prononcé cette phrase. « Je rentrerai bientôt dans mon premier, cet homme se ruine. » Tel était le sens du mot « vaudra » que lança Molineux comme un coup de griffe. La figure palote, l'œil assassin du propriétaire, frappèrent du Tillet, dont l'attention avait été d'abord excitée par une chaîne de montres qui soutenait une livre de diverses breloques sonnantes et par un habit vert mélangé de blanc à collet bizarrement retroussé qui donnait au vieillard l'air d'un serpent à sonnette. Le banquier vint donc interroger ce petit usurier pour savoir par quel hasard il se gaudissait. « Là, monsieur, dit Molineux en mettant un pied dans le boudoir, je suis dans la propriété de monsieur le comte de Granville. » « Mais ici, dit-il en montrant l'autre, je suis dans la mienne, car je suis le propriétaire de cette maison. » Molineux se prêtait si complaisamment à qui l'écoutait que, charmé de l'air attentif de Du Tillet, il se dessina, raconta ses habitudes, les insolences du sieur Gendrin et ses arrangements avec le parfumeur sans lesquels le bal n'aurait pas eu lieu. « Ah, monsieur César vous a réglé ses loyers, dit Du Tillet, rien n'est plus contraire à ses habitudes. » « Oh, je l'ai demandé, je suis si bon pour mes locataires. »« Si le père Birotteau fait faillite, se dit Du Tillet, ce petit drôle sera certes un excellent syndic. Sa pointillerie est précieuse, il doit, comme Domitien, s'amuser à tuer les mouches quand il est seul chez lui. » Du Tillet alla se mettre au jeu, où Claparon était déjà par son ordre. Il avait pensé que, sous le garde-vue d'un flambeau de bouillotte, son semblant de banquier échapperait à tout examen. Leur contenance en face l'un de l'autre fut si bien celle de deux étrangers que l'homme le plus soupçonneux n'aurait pu rien découvrir qui décelât leur intelligence. Gaudissart, qui savait la fortune de Claparon, n'osa point l'aborder en recevant du riche commis-voyageur le regard solennellement froid d'un parvenu qui ne veut pas être salué par un camarade. Ce bal, comme une fusée brillante, s'éteignit à 5 heures du matin. Vers 7 heures, des 100 et quelques fiacres qui remplissaient la rue Saint-Honoré, il en restait environ 40. À 7 heures, on dansait la boulangère et les cotillons qui, plus tard, furent détrônés par le galop anglais. Du Tillet, Roguin, le comte de Granville, Jules Desmarets, jouaient à la bouillotte. Du Tillet gagnait 3 000 francs. Les lueurs du jour arrivèrent, firent pâlir les bougies, et les joueurs assistèrent à la dernière contredanse. Dans ces maisons bourgeoises, cette joie suprême ne s'accomplit pas sans quelques énormités. Les personnages imposants sont partis. L'ivresse du mouvement, la chaleur communicative de l'air, les esprits cachés dans les boissons les plus innocentes ont amolli les callosités des vieilles femmes qui, par complaisance, entrent dans les quadrilles et se prêtent à la folie d'un moment. Les hommes sont échauffés, les cheveux défrisés s'allongent sur les visages et leur donnent de grotesques expressions qui provoquent le rire. Les jeunes femmes deviennent légères, quelques fleurs sont tombées de leur coiffure. Le momus bourgeois apparaît suivi de ses farces. Les rires éclatent, chacun se livre à la plaisanterie en pensant que le lendemain, le travail reprendra ses droits. Matifat dansait avec un chapeau de femme sur la tête. Célestin se livrait à des charges. Quelques dames frappaient dans leurs mains avec exagération quand leur donnait la figure de cette interminable contredanse. « Comme ils s'amusent !» disait l'heureux Birotteau. « Pourvu qu'ils ne cassent rien !» dit Constance à son oncle. « Vous avez donné le plus magnifique bal que j'ai vu, et j'en ai vu beaucoup !» dit Du Tillet à son ancien patron en le saluant. Dans l'œuvre des 8 symphonies de Beethoven, il est une fantaisie, grande comme un poème, qui domine le final de la symphonie en ut mineur. Quand, après les lentes préparations du sublime magicien si bien compris par Abeneck, un geste du chef d'orchestre enthousiaste lève la riche toile de cette décoration, en appelant de son archet l'éblouissant motif vers lequel toutes les puissances musicales ont convergé, les poètes dont le cœur palpite alors comprendront que le bal de Birotteau produisait dans sa vie l'effet que produit sur leurs âmes ce fécond motif auquel la symphonie en ut doit peut-être sa suprématie sur ses brillantes sœurs. Une fée radieuse s'élance en levant sa baguette. On entend le bruissement des rideaux de soie pourpre que des anges relèvent. Des portes d'or sculptées comme celles du baptistère florentin tournent sur leurs gonds de diamants. L'œil s'abîme en des vues splendides. Il embrasse une enfilade de palais merveilleux d'où glissent des êtres d'une nature supérieure. L'encens des prospérités fume, l'autel du bonheur flambe, un air parfumé circule. Des êtres au sourire divin, vêtus de tuniques blanches bordées de bleu, passent légèrement sous vos yeux, en vous montrant des figures surhumaines de beauté, des formes d'une délicatesse infinie. Les amours voltigent, en répandant les flammes de leurs torches. Vous vous sentez aimé, vous êtes heureux d'un bonheur que vous aspirez sans le comprendre, en vous baignant dans les nuits de cette harmonie qui ruisselle et verse à chacun l'ambroisie qu'il s'est choisie. Vous êtes atteint au cœur dans vos secrètes espérances qui se réalisent pour un moment. Après vous avoir promené dans les cieux, l'enchanteur, par la profonde et mystérieuse transition des basses, vous replonge dans le marais des réalités froides pour vous en sortir quand il vous a donné soif de ses divines mélodies et que votre âme crie « Encore !» L'histoire psychique du point le plus brillant de ce beau final est celle des émotions prodiguées par cette fête à Constance et à César. Collinet avait composé de son galoubet le final de leur symphonie commerciale. Fatigués, mais heureux, les trois Birotteau s'endormirent au matin dans les bruissements de cette fête qui, en construction, réparation, ameublement, consommation, toilette et bibliothèque, remboursée à Césarine, allait, sans que César s'en doutât, à 60 000 francs. Voilà ce que coûtait le fatal ruban rouge mis par le roi à la boutonnière d'un parfumeur. S'il arrivait un malheur à César Birotteau, cette dépense folle suffisait pour le rendre justiciable de la police correctionnelle. Un négociant est dans le cas de la banqueroute simple s'il fait des dépenses jugées excessives. Il est peut-être plus horrible d'aller à la 6e chambre pour de niaises bagatelles ou des maladresses qu'en cour d'assises pour une immense fraude. Aux yeux de certaines gens, il vaut mieux être criminel que sot.